Bonsoir. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives nationales de décembre 2023, rendu mardi 12 mars, ses arrêts après près de deux mois de travail. D'après ces résultats, plus de 40 députés nationaux ont été réhabilités, remplaçant ceux proclamés provisoirement par la CENI. La Cour constitutionnelle a donné acte à 21 désistements et déclaré irrécevables 525 affaires, 400 dossiers recevables mais non fondés. Deux membres du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Ajemati Mboé et Baïtifi, ont vu leur scrutin être annulé au profit des nouveaux entrants à la Chambre basse du Parlement. Les arrêts de la Cour constitutionnelle étant définitifs et inattaquables, définissent la composition de la nouvelle Assemblée nationale de la 4e législature et permettant ainsi d'identifier les différentes forces politiques au sein de la Chambre basse du Parlement. Que pensez-vous des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle? Participe au débat de ce soir Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et expert en questions judiciaires. Maître Wenga, bonsoir. Maître Wenga, bonsoir.
Bonsoir Radio Okapi, bonsoir à tous les auditeurs de Dialogue entre Congolais.
Itiel Batumike, chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Aussi dans ce débat, Lidor Tubanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale. Il s'intéresse sur l'État et la démocratie. Lidor Tubanda, bonsoir.
Bonsoir Madame Kité, bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi.
Les auditeurs sont très nombreux à envoyer leurs réactions. C'est le cas de Pascal Legrand. La Cour n'a fait que dire le droit, malgré qu'il y a quelques erreurs matérielles, mais dans l'ensemble, le travail a été bien fait. Gabriel Ekwalanga, bien que les arrêts de la Haute Cour sont inattaquables et ne faisant objet d'aucun recours, comment se fait-il qu'un député national ayant été proclamé par la CENI comme étant les meilleurs élus de sa circonscription électorale peut se voir être invalidé par la Cour constitutionnelle, vu les guéguerres qui dominent actuellement la classe politique congolaise à l'approche de la formation du futur gouvernement? J'ose croire que ces invalidations ont été plus influencés par la politique et non par le droit. Avocat Vosud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Vous avez aussi la possibilité de suivre via notre site internet www.radioekapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Cette émission passe également en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Contentieux des résultats des élections législatives nationales, plus de 40 députés nationaux ont été réhabilités, remplaçant ceux proclamés provisoirement par la CENI. C'est au cours des arrêts rendus à son audience publique hier mardi à Kinshasa. Elle a donné acte à 21 désistements et déclaré irrécevables 525 affaires, 400 dossiers recevables mais non fondés. Deux membres du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Ajemati Mboé et Baïtifi, ont vu leur scrutin être annulé au profit des nouveaux entrants à la Chambre basse du Parlement. D'autres détails avec vous, Jack Ngoy.
Parmi des personnalités emblématiques et proclamées élues figurent notamment José Mpanda du regroupement A24 contre Jacques Ngandou d'AFPCA pour la circonscription de Mbujimayi, Gisaro Alexis de l'UDPS, Tshisekedi contre Delphine Kamanda du même parti pour la circonscription d'Uvira, et Medi d'Ensemble pour la République en lieu et place de Pascal Tutu Kalumu dans la circonscription de Kabaré, Adel Kalinda Daldek dans la circonscription de Sandoa Ololaba, Moderon Simba à Mwanda au détriment de Robert Nyombo, Jean-Marie Kabengela Ilonga, allié de l'UDPS, en remplacement de Séraphine Kitubu pour Tchangou à Kinshasa. L'Alliance pour l'État de droit avec Massangu Mulongo l'emporte sur le regroupement politique Apine Abe de Lombo à Banza dans la circonscription électorale de Malemba Nkulu dans le Holomami. Maïzana du MLC au détriment de Papin Zombo pour Bolomba. D'autres figures connues sont Sami Badibanga pour la circonscription de Katanga, Nazem Kazembe pour Lubumbashi. La Cour clôture ainsi l'examen des contentieux des résultats en rendant un arrêt unique, proclamant définitivement élus 500 députés nationaux.
Maître Willy Wega, avocat au barreau de Kinshasa à Gombe, expert en questions judiciaires. Alors, comme Jeff Ngoy vient de le dire, la Cour a rendu ses arrêts hier mardi 12 mars ici à Kinshasa. Plus de 40 députés nationaux ont été réhabilités, remplaçant ceux proclamés provisoirement par la CENI, ainsi clôt le dossier contentieux électoraux. L'Assemblée nationale a ses 500 députés élus définite. La liste de ses députés. Voilà la liste définitive de ses députés, je voulais dire. D'abord, quelle lecture vous faites de ces arrêts rendus par la Cour constitutionnelle?
Madame, merci beaucoup de m'avoir associé ce soir à ce débat. Un jour juste après que ces arrêts aient été prononcés. Ma lecture, c'est que d'abord, je salue la vitesse avec laquelle la Cour constitutionnelle a travaillé, la rapidité et le temps mis à la disposition de toutes ces affaires. C'est que, de mémoire d'avocat, je n'ai jamais vu en temps record plus de 1000 affaires jugées en moins de 2 mois, maximum en moins de 3 mois. Et comme on devait s'y attendre, je pense que je l'avais déjà dit, avant même que les contentieux ne commencent, la loi électorale devait être maîtrisée par tout le monde, parce qu'avoir d'abord le nombre de requêtes jugées irrécevables, plus de 500, avoir le nombre de requêtes jugées recevables mais non fondées aussi, plus de 400, ça montre quelque part qu'il y a encore un problème de compréhension du contentieux électoral. Parce que lorsqu'il se pose déjà au niveau des arrêts la question du recevabilité de requêtes, ça signifie que quelque part, les questions de forme ne sont pas encore maîtrisées, les questions de forme ne sont pas encore vulgarisées aux partis et regroupements politiques pour leur éviter cette mort, avant que les griefs formulés contre les élections ne soient pris en compte. Et ça, c'est une deuxième lecture que je viens de faire. La non-maîtrise de la procédure en matière de contentieux électoral et surtout sur la question des formes. Quant aux arrêts dits recevables et fondés, cela consacre encore une fois de plus ce que nous avons eu à soutenir le caractère définitif en tant que pouvoir électoral de la Cour constitutionnelle qui a considéré qu'il y avait lieu pour le requête qu'il a jugé recevable et fondé. Et là, je ne porte pas jugement sur chaque cas spécifique, ça je parle de manière générale. La Cour a démontré son pouvoir d'examiner la sincérité de l'élection, la sincérité des voix, la sincérité de suffrage pour corriger ce qu'elle a considéré comme maladresse de la Commission électorale nationale indépendante. C'est-à-dire que l'élection telle que proclamée par la Commission électorale nationale indépendante a démontré ses limites à ce que la Cour, en recevant et déclarant fondée plus de 40 requêtes et invalidé plus de 40 députés provisoirement élus, ça signifie quelque part qu'au niveau de la Commission électorale, il y a eu aussi un problème sérieux de proclamer provisoirement sans tenir compte de beaucoup d'éléments. Mais il n'est pas dit que ceux-là qui ont été invalidés l'ont été totalement avec raison d'être invalidés ou avaient tort d'être invalidés, ou la Cour avait tort de les invalider, mais il y a des questions de droit qui peuvent se poser à gauche ou à droite selon le cas de chaque dossier spécifique, mais il fallait s'attendre à ces résultats-là, pas en termes de nombre, mais en termes de principe, qu'il y aurait des irrécevabilités, qu'il y aurait des non-fondements, et qu'il y aurait des fondements aussi. Donc, comme vous l'aviez dit en introduction, c'est que la Cour, par ses arrêts, a mis fin en principal au processus électoral et législatif à la députation nationale.
Alors, vous êtes du domaine, cette émission est aussi pédagogique, vous allez nous aider à comprendre certaines situations. Les arrêts de la Cour étant définitifs et inattaquables, Maître Willy Wenga, est-ce possible qu'une personne soit réhabilitée si elle détient, par exemple, des preuves convaincantes après son invalidation par la Cour constitutionnelle?
La loi électorale a prévu à ses dispositions pertinentes la possibilité pour la Cour de rectifier les erreurs matérielles. Et les erreurs matérielles n'ont pas beaucoup d'incidence sur le résultat. Et la loi précise que la rectification d'erreurs matérielles ne peut avoir de l'incidence sur le résultat que lorsqu'il y a eu vraiment un sérieux problème d'appréciation des chiffres. Et je ne sais pas si la Cour va changer de comportement pour cette législature, mais on a vu il y a 5 ans la Cour constitutionnelle revenir sur ses arrêts à travers la procédure de rectification d'erreurs matérielles. Mais il y a les temps et les époques changent, la philosophie aussi, mais il faut à cela comprendre que signifie vraiment l'erreur matérielle qui peut changer les résultats et qui peut faire réhabiliter, dès lors que tout ce qui est erreur matérielle n'est pas erreur matérielle susceptible d'avoir de l'incidence sur le dispositif de l'arrêt supposé contenir l'erreur.
Mais quelles sont ces erreurs qui peuvent être susceptibles de modifier, par exemple, un arrêt de la Cour constitutionnelle?
La première et l'erreur la plus fondamentale qui peut modifier les résultats, c'est le comptage de voix. Lorsqu'il se révèle qu'en réalité, au regard de pièces, qu'en réalité, au regard de moyens soulevés par une partie, il y a eu vraiment un problème de voix, et que la personne qu'on aurait invalidée ou qu'on a invalidée a réellement eu plusieurs voix dont la Cour n'a pas tenu compte, et que si cette personne venait t'a démontré ces problèmes de nombre de voix, la Cour, une fois convaincue, peut modifier ses calculs de voix-là et réhabiliter la personne parce qu'il a eu erreur de chiffres, erreur de nombres. Mais les erreurs liées à la procédure ou à un autre comportement, cela n'a aucune incidence sur les arrêts attaqués, mieux les arrêts dont rectification est sollicitée.
Etienne Batoumike, bonsoir.
Madame.
Alors, vous êtes chercheur à Yobuteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Nous avons tout suivi hier les arrêts de la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux des résultats des élections législatives de décembre 2023. Elle a rendu ses arrêts, mais après, il y a eu quand même quelques contestations au sein de l'opinion, surtout les candidats qui se sont vus invalidés par la Cour constitutionnelle. Quelle lecture vous faites de ces arrêts?
Alors, comme le disait Maître Willy Wenga, je pense que le fait que la Cour constitutionnelle ait décidé d'évider sa saisine dans les délais prescrits par la loi électorale, d'ailleurs, c'est moins de 2 mois, il vient de se décider de se prononcer dans moins de 2 mois qui sont prévus par la loi électorale. Cela est à saluer parce que cela ne fit pas le cas lors des élections précédentes, notamment celle de 2018, où on a vu que les contentieux électoraux ont fait plus de 4 mois, ce qui était une violation flagrante de la loi électorale. Cela aussi est très important parce que cela permet aujourd'hui, comme le disait l'informateur, d'accélérer le processus de la mise en place du gouvernement de la République qui est tant attendu par le peuple congolais. Il faut peut-être dire aussi que ce règlement définitif du contentieux électoral
rééquilibre ou redessine un tout petit peu, même si c'est pas avec une grande ampleur, les rapports de force à l'Assemblée nationale. On voit qu'il y a, par exemple, des partis qui ont perdu des députés et qui, finalement, se voient perdre un peu de leur poids et qui perdent presque des députés qui pourraient leur permettre d'avoir, de prétendre à avoir plus de ministères que d'autres. Et donc, en dehors de l'IDPS qui a assez gagné en termes de députés dans ce contentieux, 5 députés de plus, et on voit que des grands partis qui se sont positionnés en bonne posture lors à l'issue de ce scrutin du 20 décembre 2023, il y a une petite régression au niveau de l'IMC qui perd 3 députés. On parle de 9 députés au niveau de l'AFDC. Et ça, j'estime qu'ils disent aujourd'hui qu'ils sont en pourparlers pour voir dans quelle mesure ils peuvent trouver la solution. Alors l'autre question, c'est que les craintes de l'opposition du camp d'ensemble qui craignaient que, comme les réquisitoires, les avis du ministère public étaient défavorables à plusieurs de leurs députés, qui voyaient la perte de leurs députés, mais aujourd'hui on vient de comprendre que la Cour n'était pas liée par les avis du ministère public, puisque finalement Ensemble pour la République a eu un député de plus quand on regarde la manière dont les décisions ont été rendues. Donc il n'y avait pas un complot comme il le prétendait dans ce sens-là. Alors, l'autre aspect peut-être à relever, c'est que il y a aujourd'hui dans notre constitution une sorte de contradiction dans la manière dont les contentieux électoraux sont gérés en République démocratique du Congo, puisqu'on voit que la constitution autorise l'Assemblée nationale à valider le pouvoir de ses membres avant que les contentieux électoraux ne se terminent, et ça fait que finalement à la fin des contentieux électoraux, des gens qui sont déjà officiellement députés doivent céder la place à des personnes qui sont proclamées définitivement élues par la Cour constitutionnelle. En termes de réforme, il est souhaitable que la validation des mandats au niveau de l'Assemblée nationale n'intervienne qu'après les contentieux électoraux, puisqu'après cela crée un problème de droits acquis. Quelqu'un qui était déjà député, mandat validé à l'Assemblée nationale, il est obligé de céder sa place. Et ça crée des conflits. La République démocratique du Congo est souvent accusée devant le comité des droits de l'homme de l'Union interparlementaire pour que ces personnes soient remises dans leurs droits, puisqu'elles estiment qu'elles ont été dépossédées de leur mandat. Et donc c'est une réforme envisageable aujourd'hui que la validation des mandats au niveau de l'Assemblée nationale ne puisse pas précéder la fin du contentieux électoral au niveau des cours et tribunaux.
Alors, en faisant allusion à cela, Itiel Batoumike, il faut dire aussi que c'est la première fois qu'on a, mais vous allez me corriger si je me trompe dans l'histoire de la RDC, que des membres du bureau provisoire ou du bureau d'âge puissent être invalidés. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Est-ce qu'on va, trouver encore les deux moins âgés pour compléter le bureau d'âge avant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale?
Alors, je pense que ce n'est pas la première fois qu'un président du bureau d'âge, qu'un membre du bureau d'âge ne soit pas, ne finisse pas son mandat. Je crois la mandature passée, Kyungu Akumwanzape à son âme avait décidé de céder sa place et de rejoindre l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, et il avait été remplacé par un député qui était plus âgé, et le plus âgé de tous les 500. Donc ça va, cette procédure doit normalement être faite pour que les deux Benjamins soient remplacés par d'autres Benjamins, afin que l'Assemblée nationale puisse continuer à examiner les matières inscrites à l'ordre du jour de cette session inaugurale, parce que comme vous le savez, ils doivent encore examiner et adopter les règlements intérieurs et finalement passer à l'élection du bureau définitif et à son installation. Et donc en attendant qu'ils introduisent peut-être un recours en rectification d'erreurs matérielles, il est important pour l'Assemblée nationale, le président du bureau d'âge, avec l'assistance du secrétariat général à l'Assemblée nationale, d'identifier encore les deux benjamins, des nouveaux benjamins qui pourront accéder à cette charge-là.
Alidor Tshibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale. Vous vous intéressez sur l'État et la démocratie. Votre point de vue sur les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle.
Merci beaucoup, madame. Je salue mes co-débatteurs. Je voudrais d'emblée dire qu'on ne discute pas des arrêts de la Cour constitutionnelle. Pas un principe, d'autant plus qu'ils sont exécutoires et n'appellent pas de débat. Mais qu'à cela ne tienne, moi je veux prendre une autre dimension de ce débat qui m'amène à discuter du point de vue de la cohésion sociale. Est-ce que les arrêts de la Cour ou la procédure électorale telle que s'est déroulée assure la paix, garantit la cohésion sociale ou elle engendre des conflits qui peuvent générer à des intolérances jusqu'à une violence aussi excessive telle que nous sommes en train de vivre dans la partie, de le vivre dans la partie est de la République. C'est un élément très important parce que l'impression que nous avons de ce processus électoral, c'est que nous sommes en train de consacrer une démocratie procédurale. Il y a une Cour constitutionnelle chargé de clôturer la procédure électorale par le règlement de contentieux. Nous avons une CENI appelée à proclamer les résultats provisoires. C'est une procédure normale sur le plan des droits. Est-ce que cette procédure permet à ce que les résultats qui ont été proclamés tant par la Cour constitutionnelle que par la CENI reflète la vérité des urnes et permette à ce que nous puissions vivre la paix sociale. C'est un élément très important. Déjà, vous avez souligné la dimension des contentieux, des contestations. Et pourtant, un arrêt de la Cour ne pouvait pas appeler la contestation, d'autant plus qu'on considère la Cour constitutionnelle comme la gardienne des valeurs. C'est-à-dire, elle doit être le père de la paix sociale. Dès lors qu'elle se prononce, c'est que tout le monde est d'accord, tout le monde se tait et tout le monde se met au travail. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre ou à la suite de ces résultats, nous risquons d'aboutir à des contestations qui peuvent encore davantage soutenir la situation qui est déjà très désastreuse à l'est de la République? C'est la première préoccupation qui est la mienne. La deuxième, c'est que c'est déjà prononcé, la procédure a été observée, nous avons tous accepté cette constitution comme la nôtre, et nous avons accepté que nous puissions être dirigés sur base de cette constitution qui a prévu la procédure de la manière dont elle doit se faire. Je voudrais, parce que nous devons créer cette cohésion, appeler les uns les autres à se soumettre, c'est pour 5 ans. Dans 5 ans, on peut encore se retrouver candidat et être réélu. Nous avons connu en 2006 le départ de Franck Diongo, comme provisoirement proclamé, au cours de la législature, il a été, avec tant d'autres, remercié parce qu'il s'est avéré au niveau de la Cour suprême à l'époque, qui n'était pas régulièrement élu. Ils sont partis en 2011, ils sont revenus élus, donc ça ne pouvait pas constituer un problème aussi grave qui puisse faire disloquer le vouloir vivre ensemble. Mais j'insiste sur l'élément de cohésion sociale qui doit garantir la suite du processus pour permettre à ce que le vivre ensemble ne soit pas entamé. Parce que l'aboutissement de tout doit nous amener à garantir notre cohésion, notre vouloir vivre ensemble. Dès lors qu'il n'est pas entamé, c'est une bonne chose, mais s'il est entamé, ça peut générer des violences, ça peut nous amener à des contestations aussi graves
plus que même ce que nous avons vécu à l'est, nous sommes en train de vivre à l'est de la République. Deuxième élément, je salue déjà, évidemment, depuis le début de ce processus, nous n'avons pas enregistré de violences majeures, mais je ne voudrais pas que la procédure telle est en train de se clôturer nous amène à ces violences-là. Je constate que si ce n'est pas bien fait, si les contestations persistent, si au niveau de la plateforme l'Union Sacrée, on n'arrive pas bien à gérer toutes ces contradictions, cela pourrait nous amener à des contestations assez graves. Je ne voudrais pas qu'on y arrive. C'est pourquoi j'insiste sur cet aspect de cohésion sociale.
Il y a un auditeur, Colissali Mouene de Bonjo, qui nous écrit depuis Cabaret au sud de Kivu. Nous avons suivi les arrêts de la Cour constitutionnelle qui, du reste, ont semé confusion et ont surpris négativement les électeurs. Alors, on ne s'attendait ni à la validation de certains candidats, moins encore à l'invalidation des autres. Ils pensent que la CENI et la Cour constitutionnelle, il y a quelque chose qui ne va pas bien.
Oh, oui, mais il y a un problème très sérieux, madame. Pour avoir observé ce processus, je me dis qu'on devait avoir des difficultés à saisir la Cour. J'ai suivi Maître Weng à le dire. Pourquoi? Parce que c'est celui qui allègue le fait qui doit en apporter des preuves. C'est que si moi je me plains que je ne suis pas satisfait de la décision de la CENI doit être en mesure de me permettre d'avoir des preuves tangibles qui pourraient me mettre en contradiction avec elle pour prouver que j'ai été effectivement élu. Vous pouvez vous imaginer, madame, il est prévu par la loi électorale que les PV doivent être contresignés par tous les témoins qui vont participer pendant le déroulement du processus électoral ou pendant le déroulement des votes, et ces PV-là doivent être remis à chaque témoin. Est-ce que tous nos témoins ou tous les témoins des candidats qui étaient engagés dans ce processus ont eu à disponibiliser des PV contresignés et par le membre, le préposé de la CENI et par chaque témoin. Une question qu'il faut se poser, et je me pose la question, où est-ce que tous ces candidats ou tous ceux qui sont proclamés là ont pu récolter ces PV-là pour amener à la Cour enfin de prétendre à la réhabilitation de leur électorat. Ça aussi, c'est un problème très majeur parce que aucun candidat, la plupart de ceux avec qui j'ai discuté, n'étaient pas en mesure de disponibiliser tous les PV ou toutes les preuves tangibles. Pourquoi mettre à raison de se poser la question de savoir comment, sur 1000 en plus de cas de contestation, on ait retrouvé, qu'on ait résolu que 40 cas et qu'on ait rejeté plus de 500 cas et plus de 1000 ou combien de cas là. Alors vous trouvez que cela pose un problème de l'organisation même de notre du processus électoral en soi. Après le résultat, chaque témoin n'est pas en mesure d'apporter les preuves. Et aujourd'hui on nous dit qu'on a retenu 40. Sur base de quoi? Je me pose encore une question, où est-ce qu'ils ont trouvé toutes ces preuves là?
Merci Alidor Chibanda, merci à l'anti Pouloulou qui nous suit. Juste une petite contribution. Le président du bureau d'âge, le feu Benzatoubi, fut aussi invalidé par la Cour suprême de l'époque. Merci l'anti Pouloulou. On va prendre à présent ces auditeurs qui nous appellent sur notre standard. Direction, on va se diriger à Kisangani, direction Kisangani, pour écouter cet auditeur qui nous appelle.
C'est Salter Boyemba depuis la ville de Kisangani. D'entrée de jeu, c'est unième sentiment de déception nationale d'observer une institution d'excellence qui se transforme à un ciel de la médiocrité. S'il y avait la corruption à la CENI, cela pourrait se passer aussi à la Cour constitutionnelle. La CENI n'a pas produit le PV des élections et la Cour constitutionnelle n'a pas effectué les missions de terrain sur base de quoi? que la Cour constitutionnelle s'est appuyée pour constater les erreurs commises par la CENI. Comment la Haute Cour peut-elle invalider un candidat qui avait obtenu moins de voix pour valider un candidat qui a obtenu plus de voix, même si on calcule les voix obtenues par la liste des regroupements politiques? Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont plus inattaquables, d'autant plus qu'en 2018, la Cour constitutionnelle avait rendu ses arrêts en invalidant certains candidats pour valider les autres. Et quelques temps après, il a constaté qu'il avait encore commis certaines erreurs. C'est comme ça qu'il a encore attaqué ses propres arrêts. Donc, il faut encore refaire les arrêts de la Cour constitutionnelle. C'est parlant que les candidats invalidés pourraient encore introduire des recours à la Cour constitutionnelle pour obtenir leurs droits.
Maître Wenga, réaction.
Merci beaucoup pour cet auditeur de Kisangani qui a donné son point de vue et c'est son point de vue. Il faut respecter cela. Je note que le travail qu'a abattu la Cour constitutionnelle, c'est un travail intellectuel, c'est un travail technique, et certainement la Cour a statué sur base de fiches de résultats et de procès-verbaux lui transmis par la Commission électorale nationale indépendante. Ce qu'il faut noter, c'est que la Cour en statuant sur le requête introduite devant elle, a eu à examiner, je le pense, les requêtes avec les pièces annexées à celle-ci. Les requêtes, les mémoires à réponse avec les pièces annexées aussi à celle-ci, et qu'au-delà de fiches de résultats et de procès-verbaux lui transmis par la CENI, la Cour constitutionnelle doit avoir affronté le document lui transmis par la CENI et ceux lui transmis par les partis en confrontation. Le parti en conflit devant elle en termes de contestation de résultats. Donc, vous savez, à l'issue d'un procès, celui qui gagne est considéré toujours comme la justice fonctionne très bien. J'ai suivi les gens qui, hier, toute la nuit, jubilaient au motif qu'il existait une justice en République du Congo. Et j'ai suivi au même moment celles-là qui ont été invalidées et qui considèrent que notre justice est celle de la honte. Vous comprenez que les sentiments des uns comme des autres, c'est un sentiment par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que la Cour constitutionnelle a fait un travail qui n'est pas à l'abri des reproches, un travail qui n'est pas à l'abri de critiques. Mais quand tu as parlé de la médiocrité, je pense que c'est exagéré. Quand tu as parlé de le sentiment de déception, c'est un sentiment personnel, mais je considère que le travail qui a été fait, et qu'il ne peut pas être empêché aux citoyens qui se sont sentis blessés par les arrêts rendus par la Cour, et c'est un sentiment normal, à examiner ou à questionner la loi électorale, si les possibilités de voir s'il y a moyen encore de faire examiner leur cas par la Cour, et là, la loi a prévu cela, à son article 74 dernier alinéa 74 quinque dernier alinéa sur la question des erreurs matérielles. Voyez, et là j'ai répondu dès l'entrée de jeu sur cette question là d'erreurs matérielles où j'ai beaucoup insisté sur le fait que l'erreur matérielle ne peut avoir de l'incidence que lorsque il y a une inexactitude avérée entre les chiffres. Donc, le travail qui a été rendu, c'est un travail humain, un travail qui peut avoir des faiblesses, mais quand même, il faut reconnaître que c'est un travail qui a été abattu en un temps record, mais il n'est pas fermé les portes pour tous les justiciables concernés par une décision qui n'avait pas été favorable, de faire examiner encore, sans que cela ne soit considéré comme un recours juridictionnel, leur cas devant la Cour constitutionnelle.
Merci. Chouka Mouigiroua depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Ces arrêts remettent en cause le travail de la CENI qui, avant la proclamation de ses résultats, ses experts ont pris soigneusement le temps pour rassembler toutes les preuves. Bien que les arrêts de la Cour soient définitivement inattaquables, elles sont parfois injustes et motivées par les pressions politiques. GKN Kalambayi depuis Mbujimayi. En RDC, pense que les gros poissons ici au Congo mangent les petits poissons. Merci à Robert Bahomé qui nous suit depuis Bukavu au sud Kivu. Après Kisangani, on va se rendre à Goma, au nord Kivu, pour écouter cet autre auditeur. Ça sera pour vous, Étienne Batoumike.
Moi, c'est Pierre Moussafiri depuis la ville de Goma au nord Kivu. Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle de la RDC invalident plus de 40 députés nationaux proclamés provisoirement par la CENI. Même si ces arrêts sont définitifs et inattaquables, ceci ne reflète pas la réalité, mais plutôt cette journée de calcul politique qui continue jusqu'à présent après ce qui ont été fait par la CENI. Car vu les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle avec les personnalités qui ont été validées, il y a lieu de dire que c'est juste la satisfaction des uns au détriment des autres, car on a toujours dit que c'est sur les petits bananiers qu'on coupe les feuilles. Merci beaucoup.
Etienne Batoumike.
Évidemment qu'il y a peut-être des calculs politiciens dans ce qui a été rendu par la Cour constitutionnelle. Ça, ce n'est pas exclu. La Cour constitutionnelle est une juridiction hautement politique et il n'est pas exclu que des influences dans le traitement des dossiers soient des influences politiques soit à un certain moment interviennent dans le traitement des dossiers, puisque même la procédure d'erreur matérielle qui avait été appliquée en 2019 l'avait été sur demande du président de la République pour appel. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas exclu qu'il y ait des influences, d'autant plus qu'on a vu qu'avant les élections entre 2020 et 2022, il y a eu des luttes politiques pour essayer de contrôler la Cour constitutionnelle. On a vu à un certain moment le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat s'affronter autour de la désignation d'un juge constitutionnel. Donc ce n'est pas exclu qu'il y ait des influences. Mais l'autre question, c'est que aujourd'hui, j'ai entendu dans l'opinion les gens se demander comment est-ce que quelqu'un qui contre qui il n'y avait aucun recours pouvait se retrouver invalidé. Je crois que la Cour constitutionnelle a répondu à cette question lors de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle le 19 janvier 2024, lorsqu'elle dit que même en l'absence d'un contentieux électoral, s'il y a des cas de fraude avérée, la Cour peut annuler l'élection de quelqu'un. Donc c'est aussi ça, comprendre que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle peut faire en sorte qu'il y ait des invalidations, bien qu'il n'y ait pas de recours. Mais la question de la preuve, elle demeure importante à soulever, d'autant plus que, conformément à la loi électorale, la CENI était obligée de publier sur son site internet les résultats détaillés bureau de vote par bureau de vote, y compris pour la présidentielle, mais pour les législatives et toutes les autres élections y compris. Mais jusque-là, vous allez constater que la CENI ne l'a fait que pour la présidentielle et pour les législatives, la CENI ne l'a pas fait, sachant que l'accès au PV dans le bureau de vote était très problématique, était très limité pour des contraintes logistiques que la CENI a pu rencontrer lors des élections du 20 décembre 2023. En même temps, la question de la transmission aux juridictions compétentes, je crois qu'il faudrait que les gens puissent avoir assez de regard sur cette question pour que la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle veut recompter les voix, parce que dans le contentieux qu'on a vu, dans certaines décisions, on voit qu'il y a eu recomptage de voix. Et je me demande s'il y a eu vraiment recours au pli de la CENI devant toutes les parties, comme le prévoit la loi.
Merci, je crois qu'on a perdu Etienne Batoumike, je ne sais pas s'il est en ligne. Merci Etienne Batoumike.
Que lors des prochaines élections, il serait intéressant que lors des prochaines élections, on puisse avoir des OPJ de la Cour constitutionnelle qui iraient sur terrain pour pouvoir repérer les irrégularités sur terrain au lieu de les attendre des parties au procès. Parce que cela aussi peut biaiser à un certain moment l'analyse de la Cour constitutionnelle.
Merci Thierbato Mike. On va aller à Kolwezi pour retrouver Patrick Mbouli.
C'est Patrick Mbouli Katama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Il est vrai que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs et inattaquables, mais la question que je me pose est celle de savoir sur quelle base ou élément de preuve que la Cour se focalise pour annuler l'élection de celui qui a été proclamé gagnant par le seul organe attitré qui est la CENI. Ne voyez-vous pas que cette situation risque de provoquer une grogne dans la société, éloignant ainsi la paix sociale? Je crains que cela soit des compromis politiques pour punir certains regroupements politiques ou certains leaders.
Alors, Ali Dortibanda, vous étiez en train d'en parler justement tout à l'heure. Hein. Vous avez parlé de cohésion nationale. Vous avez évoqué le fait que la crainte, c'était pour vous que de voir que ces arrêts puissent provoquer une grogne hein, au sein de la population, au sein de l'opinion.
Effectivement, c'est cela. Tout ce qui doit être décidé, tout ce qui doit être fait dans un État pluriethnique ou multicommunautaire comme le nôtre, c'est de travailler dans le sens de garantir, de travailler dans le sens d'assurer la cohésion. Et je suis content qu'il ait soulevé cette question. Mais avant de répondre ou de réagir à cette préoccupation, je voudrais rappeler que les hommes passent, les institutions restent. On ne peut même pas discuter sur le cas de deux de nos compatriotes qui vont quitter le bureau provisoire, d'autant plus que l'administration, c'est une continuité. Ceux qui pourront être repêchés verront dans quelle mesure ils vont continuer la procédure telle qu'elle avait déjà été entamée. On ne peut même pas discuter sur ça parce que nous sommes passagers. Il n'y a que des institutions qui sont durables. On risque de retomber dans ce qu'on a toujours constaté dans ce pays, l'appropriation des institutions par des individus. Vous arrivez à une administration, on vous dit parce que tel n'est pas là, on ne peut pas avoir tel document. Non, non, non. Ils doivent partir. Vous avez révélé le cas, vous rappelez le cas d'Mbenza. Il est parti. L'Assemblée a continué jusqu'à l'installation du bureau définitif. Il n'y a pas eu arrêt de mort. C'était ça la suite à l'autre préoccupation qui était celle d'aujourd'hui. Et j'insiste pour le deuxième volet de mes préoccupations sur la cohésion sociale. Si nous voulons bâtir ce pays, si nous voulons bâtir la paix de manière durable, tout ce que nous devons faire, pensons à garantir la paix, pensons à mettre tout le monde d'accord, pensons à intégrer toutes les communautés pour qu'il n'y ait pas de frustration. Les frustrations génèrent la violence. C'est un élément très important et le processus électoral, même prochainement, si nous devons continuer à soutenir que le pouvoir soit conquis par la voie électorale, nous devons travailler pour que les élections génèrent la paix sociale. J'étais content depuis la proclamation de tous ces résultats. On n'a pas assisté à une gogne, à des bandes de viol, mais nous voulons que cet esprit puisse continuer jusqu'à ce que toutes les institutions seront définitivement installées. Les élections, c'est une étape.
Bonsoir.
L'essentiel, c'est la suite de ce que nous allons faire du pouvoir qui nous sera accordé.
Bonsoir Radio Kapi, je suis Gloire Adjamougissa depuis Magui Ndrele dans la province d'Elitouri. Nous saluons le travail abattu par la Cour constitutionnelle. Elle a montré que la RDC est un pays démocrate car elle a prouvé au monde entier qu'elle est indépendante et ne dépend ni de la CENI ni d'un parti politique. Et la question que nous nous posons, ceux-là qui ont été remplacés... Et ceux-là qui ont remplacé les invalidés normalement, est-ce que eux devraient-ils être validés? Voilà, c'est une question que Gloire se pose. Il nous appelle depuis, nous écrit depuis Magui. Nous sommes à la fin de cette émission. Maître Willy Winga, il y a Olivier Capindo. Un autre auditeur qui écrit, qui dit que cette situation n'est pas la première. En 2019, face aux invalidations en cascade, la Cour a dû revenir sur beaucoup de ses arrêts. L'inattaquabilité n'existe plus. Êtes-vous d'accord avec lui?
Reste constitutionnel. L'inattaquabilité reste légale. et que cet auditeur a les 10 ans, je pense qu'il ironise un peu. Ce qui est vrai, c'est que constitutionnellement par là et légalement par là, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rendus au premier dernier ressort et sont inattaquables. Et comme j'ai le développé tout à l'heure, madame, c'est que en exerçant la procédure en rectification d'erreur matérielle, le requérant en cette procédure-là n'a pas attaqué l'arrêt en termes de cassation ou d'annulation devant une juridiction supérieure, mais c'est une demande qu'on introduit devant le même juge afin de rectifier son propre œuvre. Lorsqu'on parle d'attaquabilité, signifie on veut faire censurer une œuvre devant un juge supérieur, un juge plus expérimenté. Mais lorsqu'on introduit une requête à rectification d'erreur matérielle, on le fait devant le même juge. Mais ce que j'ai dit et je soutiens, c'est que les arrêts de la Cour constitutionnelle restent inattaquables, sont rendus au premier dernier ressort, et que lorsqu'on exerce, on fait la procédure à rectification d'erreur matérielle, qui est prévue par la loi, c'est légal, donc on ne peut pas se les cacher. Il faut cependant tenir compte de la conditionnalité d'exercice de cette erreur matérielle-là, en ce que la loi que j'ai invoquée, la loi électorale à son article 74 et dernier alinéa, insiste beaucoup sur la précision, l'exactitude, la précision et la démonstration que le requérant à rectification d'erreur matérielle doit faire, à savoir démontrer qu'il y a eu une exactitude avérée des chiffres mentionnés dans la décision qu'on aimerait voir être rectifié et contenant l'erreur matérielle.
Merci, Maître Willy Wenga. Et si Alba Tumike, il y a un autre auditeur, Passion Biamungu de Kinshasa, qui dit, qui se pose la question, qui pose à vous, qui vous pose à vous, invité la question de savoir, malgré l'inattaquabilité de ces arrêts, est-ce que la Constitution donne telle à cette Cour le pouvoir de léser les gens à son gré?
Non, la Cour constitutionnelle, comme toutes les autres juridictions, est garante des libertés fondamentales. Et donc, la Cour ne peut pas être fossoyeure des libertés qui sont garanties par la Constitution. Et même si les décisions de la Cour ne sont pas attaquables, ces décisions-là sont rendues au nom du peuple. Et donc, elles ne peuvent pas léser le peuple pour lequel, au nom duquel ils sont rendus. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a la procédure d'erreur matérielle, comme le nécessaire de le rappeler Maître Willy Wenga, et les partis qui s'estiment lésés doivent se rassurer s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 74 de la loi électorale à son dernier alinéa pour pouvoir finalement introduire des requêtes en rectification d'erreurs matérielles, sachant s'il y a effectivement la question d'une exactitude au niveau des chiffres.
Mais comme je l'ai dit, il y a tantôt. Et on a un retour, vous avez une radio allumée à côté, Thiel Batoumiké?
Non, il n'y a pas de radio.
Alors allez-y, concluez s'il vous plaît.
Donc, je disais en conclusion qu'il faut distinguer les cas. Donc, dans le cas de fraude, si la Cour dit qu'il y a eu de fraude, la Cour s'est déjà donné la liberté de ne pas valider une élection qui est entourée par le cas de fraude. Et donc, il faudra distinguer les cas s'il s'agit de fraude à alléguer ou s'il s'agit juste de calcul des voix obtenues par les différents requérants.
Merci, Thiel Batoumike. Ali Dortibanda, votre conclusion.
Bon, c'est juste pour saluer le travail de la Cour et que demander aux uns aux autres de garder leur mal en patate pour qu'on protège encore ce bien précieux qui est le Congo. Les hommes, nous sommes faillibles. S'il y a eu des erreurs, que la Cour revienne sur ces erreurs au regard des dispositions légales, et que la paix sociale soit garantie. Le reste, n'est que passager, comme le pouvoir lui-même est passager.
Merci Yalidor Tshibanda, merci à David Wedi depuis Kinshasa. La Cour constitutionnelle est partie vite en besogne, ses arrêts. Certaines choses semblent être mal faites. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Duna Madimba, Jean-Claude Fiala, Jonathan Fanani, Hervé Voka qui m'ont accompagné dans la préparation et la présentation de ce magazine. Au micro, Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.